Bien, bonjour. La question posée, en fait, est posée dans le cadre des soins primaires. Et nous sommes bien d'accord, nous allons parler de soins primaires. Alors, les soins primaires, qu'est-ce que c'est ? Les soins primaires, si on se place au niveau du patient, son état de santé fait qu'il vit, il est bien, il est dans la société, et il ne pose pas de problème, et il n'a aucun problème. Et on est, nous, soignants, au stade de prévention. Un souci de santé va survenir, et on va passer au stade d'automédication. Et là, le patient va pouvoir observer une résolution de son problème, et on n'en parle plus, et repasse au stade antécédent. Soit il va avoir un soulagement et il va supporter et attendre que ça passe. Soit son seuil de tolérance va être dépassé et à ce moment-là, il va avoir recours au système de soins. Et il va rentrer dans le système de soins primaires. C'est-à-dire c'est le premier accès aux soins. Ce premier accès aux soins, typiquement on l'assimile au médecin généraliste, c'est une grossière erreur. C'est effectivement le médecin généraliste, mais c'est aussi, ça peut être l'infirmière, ça peut être le pharmacien, ça peut être tout professionnel de santé qui peut répondre à ce patient. Ça peut être aussi, puisqu'on a parlé beaucoup de diabète, ça peut être aussi le diabétologue qui sera le premier accès aux soins. Donc vous voyez que ces soins primaires sont assez larges. Les soins secondaires, c'est un deuxième recours, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une technicité, on a besoin d'un environnement différent, et là on va passer soit le relais à un spécialiste, non généraliste, soit le relais à l'hôpital. Et on sera en soins secondaires. Les soins tertiaires, les soins secondaires ne suffisent plus, on n'arrive pas à résoudre le problème de la tolérance, le seuil de tolérance est dépassé, et on est obligé d'arriver aux soins tertiaires avec l'hyperspécialisation. Alors, si vous voulez, ce schéma, vous le voyez souvent, si vous le faites tourner de 90 degrés, vous le voyez souvent comme ça, avec les soins tertiaires en haut, représentant l'efficience et la qualité, ce qui est complètement faux et perverse. En fait, le problème, c'est que c'est le facteur temps qui change et qui fait passer le patient d'un secteur de soins à un autre. D'accord ? Alors, pour vous présenter aussi à quel niveau d'intervention on se situe, je vais vous présenter une étude qui a été faite en 1961 par M. White, et ce qu'on appelle le carré de White. Cette étude a porté sur 1000 adultes, tout venant, exposés possiblement à un trouble de santé. C'est 1000 personnes sur un mois. Eh bien, il y en a un certain nombre qui s'est bien porté, qui n'a eu aucun problème. Mais 750 ont perçu un trouble de santé qui va du mal de tête jusque la jambe cassée, en passant par bien d'autres choses. Ces 750 sujets, sur ceux-là, et souvenez-vous de l'automédication, il en reste 250 qui n'ont pas toléré, qui n'ont pas réussi à se débrouiller tout seuls et qui ont consulté en soins primaires. Sur ces 250, il y en a 9 qui sont passés en soins secondaires. Sur ces 9, il y en a 5 qui ont été réorientés parce qu'il y avait une orientation un peu déficiente. Par exemple, une douleur thoracique qu'on a assimilée à un problème cardiaque alors que c'était un problème gastro-entérologique. Voilà, ça arrive souvent. Et sur ces 9 sujets hospitalisés en soins secondaires, hospitalisé ou confié à un spécialiste non généraliste, il y en a un qui se retrouve en CHU, en soins tertiaires, ou en service hyper spécialisé, qu'on peut trouver en... Alors, ce schéma pour vous montrer que quand on parle d'éducation thérapeutique en groupe à l'hôpital, on s'adresse à ces 9 sujets. Sur les 1000 au départ. D'accord ? Que si on considère les patients qu'on voit en soins primaires, on en voit quand même un petit peu plus. Et que l'efficience d'une approche en soins primaires sera certainement meilleure que en soins secondaires. Ceci étant dit, si une approche est faite en soins secondaires, puisque ces patients émanent des soins primaires et vont y retourner, il serait intéressant qu'en soins primaires, on puisse répondre à cette demande, puisque à partir du moment où on va les éduquer, on va retrouver des patients qui seront changés, qui seront différents, et il va falloir répondre à leurs sollicitations. Donc, l'intérêt de s'occuper un petit peu quand même de ces soins primaires et de voir ce qu'on peut faire en éducation thérapeutique à ce niveau-là. Alors, ma réflexion, elle part d'une expérience, qu'on a fait chez nous, à Boulogne-sur-Mer, en un réseau qui a été créé en 2001. Ça fait partie des premiers réseaux Soubi. Les objectifs du réseau sont d'améliorer la qualité des soins et la qualité de vie des patients. Donc, le réseau est tourné essentiellement vers les patients. Ça entraîne quelques prérogatives pour les patients. Protocoles de soins recommandés sont validés. L'approche diététique est prise en charge par la Caisse régionale d'assurance maladie. Les ateliers pratiques sont proposés régulièrement, ateliers pratiques de diététique, ateliers d'activité physique. Des consultations psychologiques sont proposées avec des groupes de parole qui sont organisés. Le suivi podologique, qui est réglementé malgré tout, est quand même pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie. Les patients ont accès à différents cycles d'éducation, et c'était à l'origine du réseau. Cycle d'éducation, il y a 6 séances initiales, il y a une séance de soutien annuelle, et puis des cycles thématiques qui sont organisés, parce que on a eu un gros, lourd débat à ce niveau-là, parce que on était parti au départ, on va suivre les patients en échec. Ça n'a aucun sens de dire qu'un patient est en échec. Mais on a eu beaucoup de mal à définir ce patient-là qui est en difficulté, dirons-nous, mais est-ce pas le soignant qui est en difficulté là? Donc, bon, c'est difficile. Mais disons, les patients qui nécessitent une prise en charge un peu particulière. Les soignants, eux, se voient offrir diverses possibilités d'investissement dans le réseau. Ils peuvent adhérer pour partager avec tous les membres la philosophie du réseau et faciliter l'adhésion des patients. Surtout, ils ont accès à la philosophie du réseau. Et ils peuvent répercuter au niveau des patients ce qui peut être dit à d'autres endroits. Ils ont l'opportunité de coordonner une équipe de soignants autour du patient, mais ça, on rejoint là très, très fortement ce dont on parlait ce matin, c'est-à-dire les réseaux informels, les réseaux virtuels. J'aime pas le mot virtuel, je préfère informel. Et puis, ils ont aussi la capacité, après quelques journées de formation, d'éduquer des patients et de promouvoir cette éducation thérapeutique en groupe. Et donc, cette éducation, elle est organisée en groupe. Alors, le réseau, ces chiffres ne sont pas encore à jour puisque ça a évolué, ils ont augmenté ces derniers temps. 90 médecins généralistes ont été sollicités, 61 infirmières, et ça c'est en 5 années de fonctionnement. Donc tous ces gens sont intervenus, et sur ces 206 intervenants, que j'ai répertorié, 160 ont suivi la formation pédagogique de 2 fois 2 jours. Et à partir de là, 36 binômes, c'est-à-dire un médecin généraliste et une infirmière, sont passés à l'acte, si j'ose dire, et ont enseigné des groupes de patients. D'accord. Donc 1080 patients diabétiques de type 2 sont inscrits. Et parmi ces patients, 201 d'entre eux ont suivi un programme initial d'éducation en groupe organisé en libéral. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a aussi 30 personnes de leur entourage qui ont suivi ces formations. Et donc on s'aperçoit que la demande, elle n'émane pas que du patient. L'évaluation des activités pédagogiques du réseau nous permet de faire un bilan assez positif quand même. La Caisse régionale d'assurance maladie note une amélioration nette du suivi des recommandations au sein du réseau, ainsi qu'une augmentation de la prise en charge coordonnée des pieds des patients diabétiques, incluant les relations médico-chirurgicales. Et ces relations ont diminué, on va dire. L'étude à Saved, qui a été mise en place au départ du réseau, a mis en évidence l'amélioration de la qualité de vie des patients. On n'a pas pu obtenir une amélioration des critères biomédicaux parce que l'étude a été un peu trop courte. Une évaluation Sécus montre la satisfaction des patients. 100% conseille la participation aux réunions à un autre diabétique. Donc on peut dire qu'ils étaient assez contents quand même. Et la pérennisation du réseau traduit certainement la satisfaction des soignants investis. Ils ont découvert une autre approche de leurs patients. Ils ont aussi découvert des nouveaux patients, si j'ose dire, puisque leurs patients ont changé. Et ça, ça a été la grosse découverte dans le milieu, le milieu soignant, de voir les patients changer et de les voir autrement, en fait. Hein. Les patients n'ont pas changé, ou un peu, mais les soignants les ont perçus différemment. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça montre aussi que les comportements ont changé.
Il reste environ 5 minutes.
Oui, c'est loin. Alors, le constat aujourd'hui, le réseau existe. Il fait de nouveaux adhérents chez les patients, moins chez les soignants, bien sûr, puisque ça s'épuise, le potentiel s'épuise. L'adhésion au début a été rapide chez les soignants, beaucoup plus lente chez les patients et... Les charges augmentent, les subventions s'essoufflent, il faut bien le reconnaître, on en a parlé ce matin. Parmi les soignants, les anciennes recrues somnolent, un peu, et c'est tout le but de la réflexion qui va venir. Les soignants ont du mal à s'investir, les patients sont changés, et comment répondre à ce changement ? C'est une question difficile de partager les données de chacun, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le réseau. Et les patients s'intègrent au réseau et participent. Ils n'ont pas trop de problèmes. Mais rapidement, quand ils se retrouvent dans le système de soins normal, ils retournent un peu trop vite à leur ancienne dépendance médicale. Alors, les doléances. Les doléances, c'est le temps, bien entendu. Le manque de temps. C'est unanimement avancé. Les patients ne veulent pas multiplier les consultations de prévention. Ça ne les intéresse pas. Le concept passe très mal chez les patients qui ne ressentent pas les effets de la maladie. Et c'est toujours la même histoire. Ce sont des patients qui ne sont pas malades. Comment les amener à nous écouter, si j'ose dire ? Les soignants prolongent leur effort dans la formation pédagogique. Le problème, c'est que ces changements entraînent une consultation beaucoup plus longue. Et donc, comment intégrer cette consultation plus longue dans un système de soins où la démographie médicale diminue et voilà, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, partager les informations, on est en train de mettre en place un dossier médical informatisé qui devrait répondre quand même assez aux problèmes et encore des questions qui se posent. Alors l'argent, lié au temps, toujours, qui revient dans les discussions. Alors le temps passé en formation est assimilé à une perte de ressources par les soignants. Ils souhaitent accéder à une indemnisation du temps de formation, d'autant que maintenant il y a une formation médicale continue qui est indemnisée. Donc voilà, comment intégrer ça ? Les consultations pédagogiques paraissent plus longues. On revient toujours à la même histoire. Est-ce qu'il faut un acte spécifique ? Je ne le crois pas. Les réunions de synthèse pour chaque patient ne sont pas rémunérées. La formation médicale continue s'enlise actuellement. Il vient d'y avoir un décret qui vient de sortir, qui est sorti avant-hier, mais bon, ou qui va sortir. L'évaluation des pratiques professionnelles subventionnées et l'émanation de la profession, mais aussi de la société civile, cette évaluation des pratiques professionnelles. Sa mise en place est encore embryonnaire, mais il est probable qu'elle servira à terme nos desseins. Alors, La coordination des moyens institutionnels pourrait faciliter le rôle du réseau afin de soutenir la conception des programmes et apporter la logistique nécessaire aux formations, les salles, les repas, les formateurs, la désignation des participants. Ceci préservera l'unité et la cohérence d'action des soignants et renforcera le processus éducatif auprès des patients. Faciliter le rôle du réseau, c'est encore favoriser et encourager le dispositif d'évaluation. Alors, sur le plan pédagogique, le soignant devrait être capable d'intégrer le diagnostic éducatif dans sa démarche de soins, d'accompagnement et de suivi, de négocier des objectifs raisonnables avec son patient, de partager avec la personne un ou des contrats à partir de ses objectifs, d'utiliser des outils d'éducation individuelle, d'évaluer en permanence les données actualisées propres à ce patient. Donc c'est un processus bien vivant. Mais il est bien difficile de dire aujourd'hui si ces objectifs sont atteints. Une évaluation des pratiques des soignants du réseau pourrait répondre, mais le référentiel existe, le protocole d'évaluation reste à définir et les moyens de mise en œuvre n'existent pas, bien entendu. Par ailleurs, les soignants ont été formés dans l'optique de la prise en charge en binôme d'un groupe de patients. Il n'est donc pas pertinent de les évaluer au cours du colloque singulier, du moins pour l'instant. Alors, pour demain, il n'y a pas de difficulté à préserver le temps diagnostique et thérapeutique. Le temps pédagogique vient s'ajouter pour le patient et le soignant au cours d'une consultation supplémentaire fléchée ou dédiée. Cette consultation entre dans le contrat négocié avec le patient. Elle fait partie des soins et je ne vois pas pourquoi on la rémunérerait d'une autre façon. Ça, c'est mon opinion et je la partage. La rémunération s'accommode bien de l'existant. Le paiement à l'acte et la prise en charge à 100% permettent les consultations nécessaires. Leur nombre est variable d'un patient à l'autre, puisque, n'oublions pas, c'est quand même le patient qui décide s'il est d'accord pour suivre une éducation ou pas. C'est lui qui est demandeur, c'est pas nous qui sommes demandeurs. Il ne faut pas se tromper. Nous, on est prestataire de service. Bien sûr que ça va servir nos desseins, mais c'est quand même le patient qui va décider, qui va donner son accord. Je vous rappelle quand même que dans le traitement de l'hypertension, il y a 50% des patients qui ne prennent pas leurs médicaments. D'accord ? Et il faut le reconnaître, c'est comme ça. Et je vous rappelle encore qu'on est en soins primaires, et qu'en soins primaires, le patient est libre. Libre. Ce n'est pas une patientèle captive comme à l'hôpital. Le travail dans le réseau peut être facilité par le dossier informatisé, je vous en ai parlé, outil assurant la cohérence, la pertinence et la traçabilité des actions menées et des résultats obtenus. Et c'est aussi une façon de partager le diagnostic éducatif. Mais les contraintes de double saisie, de liaison ADSL sont en train de se résoudre. Enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors, sur le plan institutionnel, le réseau demeure à l'initiative du projet d'amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie des patients. Pour autant, la charge logistique de la formation sera portée par la profession. C'est la formation professionnelle conventionnelle, la formation médicale continue et l'évaluation des pratiques professionnelles qui va permettre de...
Je peux vous demander de conclure, s'il vous plaît ?
Oui, oui.
Merci.
Ça va aller très vite. La charge soignante est déjà supportée par les caisses d'assurance maladie. Le solde reste soumis aux subventions institutionnelles, en particulier la DRDR, l'URMEL. Alors, sur le plan pédagogique, pour éduquer les patients, le processus pédagogique doit s'intégrer à la pratique quotidienne et à la pratique en réseau grâce au dossier informatique partagé. Pour former les professionnels de santé non médecins, recours aux subventions de la DRDR s'impose. Et pour former les médecins, eh bien, on va se retrouver avec ce que je vous ai cité tout à l'heure, la formation professionnelle et conventionnelle, la formation médicale continue, la formation médicale initiale et l'évaluation des pratiques professionnelles. Alors, cette évaluation des pratiques professionnelles, elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations, et on en a parlé assez longuement ce matin, et vous voyez à quoi ça peut servir, et selon une méthode élaborée ou validée par la HAS, qui inclut la mise en œuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques. L'amélioration de ces pratiques peut se concevoir aussi comme le développement de pratiques adaptées, voire de nouvelles pratiques. Il semble que ce soit une possibilité d'avenir, l'évaluation guidant les comportements, on est bien d'accord. Le référentiel existe, et vous l'avez là, si on prend le schéma, le référentiel existe. Reste à déterminer l'ensemble des critères évaluables pour avoir un protocole qui soit adapté, et en particulier adapté au système de soins considéré, si on est en soins primaires ou secondaires, ce n'est pas le même référentiel. Et il reste à imaginer les outils d'analyse, donc, et obtenir l'adhésion des soignants au système. C'est un vœu encore pieux pour l'instant. L'éducation thérapeutique des patients dans un cabinet médical libéral est donc concevable, quand même. Une organisation des soignants en réseau paraît toutefois un élément moteur et structurant essentiel, la motivation restant l'élément indispensable. Notre expérience de réseau a révélé des besoins et renforcé la motivation. Il reste à mettre en œuvre les potentialités de chacun pour optimiser les comportements face à l'éducation des patients au sein des cabinets médicaux en soins primaires. L'évaluation des pratiques professionnelles qui fait son entrée dans les processus reconnus de formation médicale continue sera peut-être l'amorce de la diffusion et de l'appropriation du concept d'éducation thérapeutique en pratique médicale, individuelle, ambulatoire, dans le cadre des soins primaires. Je voudrais insister aussi sur le fait qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est que la formation médicale initiale intègre maintenant l'éducation du patient. Et qu'il est en train de se passer un phénomène assez curieux, c'est que les étudiants en médecine ont un ou deux cours d'éducation du patient, d'éducation thérapeutique du patient, en deuxième cycle. Et donc, ils arrivent en troisième cycle, c'est-à-dire en cycle de formation professionnelle, avec un petit bagage d'éducation thérapeutique. Et il se passe la chose suivante, c'est que les enseignants, et pour ma part sont des enseignants de médecine générale, il se passe la chose suivante, c'est que les enseignants ne sont pas du tout formés à ça. Et que les étudiants sont en train de leur demander des choses qui sont ignorées. Et il y a un décalage qui est au niveau universitaire, éminemment préjudiciable, et j'ai honte. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.